Monsieur Éric Petiot, bonjour. Vous venez d'éditer aux éditions Deutéran « Les soins naturels aux arbres ». Ce livre est assez surprenant parce que vous êtes un observateur hors pair.
J'observe grosso modo depuis les années 90 l'environnement. Ce qui me passionne particulièrement, c'est le système de défense des plantes, un système qui est naturel et acquis génétiquement. Donc tout à fait passionnant d'observer cette mise en place par le végétal face à une agression, ce qui nous permet éventuellement de ne pas traiter avec des insecticides ou fongicides, mais simplement de renforcer le système de défense de la plante avec des préparations naturelles.
Votre livre est très bien fait puisque la première partie, enfin le tout début, est un historique concernant justement les médications liées aux plantes. Et vous nous dites que c'est à partir de 1900, donc on va dire entre nous très récemment, quand on pense à partir de la préhistoire, que les êtres humains se sont mis à employer des substances chimiques de façon outrancière, alors qu'avant il y avait d'autres méthodes que vous remettez à l'ordre du jour.
Ah oui, ça c'est tout à fait passionnant, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'en Andalousie ou en Algérie ou au Maroc, on avait des agronomes de grande réputation, du type comme Ibrahim Al-Hawam, qui maîtrisait grosso modo 43 plantes. Il connaissait l'usage des infusions, des décoctions, c'était un peu, je dirais, le pionnier de la biodynamie, sans forcément appeler ça de la biodynamie. Mais en définitive, il arrivait très très bien à se débarrasser de criquets, de pucerons avec des préparations naturelles. Et on a retrouvé sur des hectares la culture de ces plantes sur la thématique les plantes pour soigner les plantes.
Et donc vous êtes parti donc dans ce courant de pensée. Vous observez la nature, vous observez la réaction des végétaux, vous avez des connaissances en biologie. Et à partir de là, vous préconisez un certain nombre de préparations afin de lutter contre certaines agressions.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que si on observe bien la nature, on peut être particulièrement efficace, tout aussi bien pour un professionnel, avec des préparations naturelles insecticides, fongicides, donc contre un champignon, ou phytostimulantes pour booster la plante, pour mieux se défendre face à un ravageur. Et j'ai des professionnels qui sont largement au-dessus des rendements nationaux par rapport à des produits de synthèse, et qui sont à 100% autonomes en faisant eux-mêmes leurs préparations fongicides, insecticides. Et quelque part, acquérir cette autonomie pour un professionnel, c'est tout à fait intéressant. C'est-à-dire en définitive, c'est savoir qu'est-ce qu'un bon produit. À partir du moment où il le fait lui-même, il peut aussi en commander, mais il a les outils de réflexion pour analyser un produit commercial pour savoir si c'est un bon ou mauvais produit.
Par exemple, quand vous me parlez de professionnels, ce sont des professionnels qui sont dans quelle profession agricole ?
On a tout type de milieux professionnels. On forme aussi bien des viticulteurs, des arboriculteurs, des pépiniéristes, des paysagistes, des agriculteurs. On a tous les domaines liés à la terre où les professionnels sont intéressés par ce type de préparation parce que c'est des gens qui sont très souvent déçus de l'usage des pesticides quand ils ont pu observer la rémanence au niveau environnemental, les dégâts que ça peut causer au niveau humain, animal et en règle générale sur l'environnement.
De manière, j'allais dire simple parce que c'est vrai que c'est un domaine qui peut être très complexe. Une plante, comment fait-elle pour réagir à un ravageur et en quoi vous allez l'aider avec vos préparations ?
Visuellement, déjà, on va opérer par un diagnostic visuel où c'est assez intéressant d'observer que très souvent la plante, quand elle subit une agression, elle va mettre un peu en place ce que j'appelle moi la retraite d'Hannibal, qu'elle abandonne des cellules au ravageur, faire croire que plus rien ne va. Et pendant ce laps de temps, la plante va alerter toutes les parties végétatives, les feuilles, les racines, les tiges, les bourgeons, les fruits s'il y en a, avec des phytohormones, comme nous avons des hormones que nous sécrétons à partir de l'hypothalamus, etc. Donc vous avez des plantes qui vont élaborer des phytohormones, comme de l'acide salicylique, c'est très proche de l'aspirine. Elle avertit toutes les parties végétatives et pendant ce laps de temps, elle va élaborer tout un arsenal biochimique pour contrer le ravageur et mettre en place une zone de barrage, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, une compartimentation autour des cellules qu'elle a abandonnées au préalable au ravageur. Bien beau, elle abandonne des cellules, mais à un moment donné, il faut qu'elle reprenne sa croissance. Donc, elle vient mettre en place ce qu'on appelle des phénols. On en retrouve dans le vin, par exemple, des antioxydants qui sont très puissants. Elle met en place cette zone de barrage pour dire au ravageur stop. Et ces substances sont antinutritionnelles, elles peuvent stopper la ponte, elles peuvent stopper la mue. En tous les cas, elles bloquent le ravageur dans son évolution.
Pendant un laps de temps, la plante va sembler souffrir, voire sur une certaine zone, sur une certaine partie d'elle-même. Et ça, c'est très intéressant parce que très souvent, j'ai l'impression que des jardiniers amateurs, ils ont une idée de perfection qui est terrible. Et dès que la plante commence à avoir un signe de faiblesse, ils vont courir chercher un traitement quelconque pour agir. On a trop en tête une idée de perfection totale. On confond un peu le végétal et le plastique, parfois, j'ai l'impression.
Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une forme d'esthétisme du végétal qui est entrée en ligne de compte et qui a, je dirais, à l'heure actuelle, la primauté sur le système de défense génétique de la plante. C'est-à-dire qu'on vient même annihiler ou supprimer en partie ses défenses immunitaires par l'intrant de produits de synthèse. Et ne pas tenir compte de ça, c'est gravissime. C'est-à-dire que de prendre en considération un système de défense acquis génétiquement sous forme de coévolution, un ravageur-ravagé, la plante plus le ravageur, donc ça s'est fait en termes de millions d'années, je trouve que c'est dommageable pour l'environnement. Mais bien évidemment, il y a aussi des plantes qui ne reconnaissent pas leur agresseur, comme le mildiou, par exemple, sont des maladies qui sont récentes, ou la vigne, par exemple, ouais. La vigne ne reconnaît pas son agresseur, donc elle n'arrivera pas à compartimenter. Donc forcément, notre intervention sera différente. Mais une fois qu'on a compris ça, il n'y a pas véritablement de parasites sur le végétal. On arrive à observer ces 10 ravageurs comme des indicateurs de traitement, des indicateurs d'excès ou de carence.
Ce que j'ai remarqué, moi aussi, c'est parfois, par exemple, je cultive souvent des fèves en engrais vert. Il y a 1, 2, 3 pieds de fèves qui sont, on va dire, bourrés de pucerons noirs, par exemple, et les autres sont sains. Donc, à partir du moment où moi, je laisse le ravageur en question tranquille sur les quelques pieds qu'il a décidé de coloniser, les fourmis, d'ailleurs, les parquent assez bien pour pouvoir les traire, on est tranquille.
C'est ça, c'est une question d'équilibre. Hein. Je pense qu'on a énormément d'insectes qui sont là pour vous indiquer votre façon culturelle. Si vous égarez dans les apports au niveau du sol ou au niveau des traitements, ils ne sont là que pour révéler... je dirais, vos défauts ou vos qualités dans le jardinage.
Par rapport au mildiou, puisque la plante ne le reconnaît pas, vous préconisez quoi comme traitement ?
Alors, on a des approches tout à fait différentes par rapport aux produits conventionnels. On fonctionne aussi bien avec des infusions ou des décoctions, voire au-delà avec des huiles essentielles. Ce sont des métabolites secondaires naturels qui sont tous biodégradables, où on va calculer un seuil de toxicité pour le ravageur, pour essayer d'annihiler son développement. Mais encore une fois, je précise que l'idée n'est pas de tout détruire. Voilà, il y a un juste milieu dans notre approche, on vient juste calmer le jeu, ou alors on vient bouleverser le champ de détection du ravageur. C'est-à-dire que on vient poser une rustine, si je puis dire, c'est un leurre odoriférant. On apporte un panel de molécules qui créent des arômes, et le ravageur ne reconnaît pas, par exemple, les plantes malades, il va passer au-dessus. Ou le verger qui est malade, ou la vigne malade, le ravageur va passer au-dessus parce qu'il ne reconnaît pas les odeurs d'une plante malade. Il faut bien comprendre qu'un ravageur s'installe sur une plante qui est faible, jamais sur une plante qui est vigoureuse.
Pourquoi avez-vous hésité autant à écrire et à publier ce livre ?
C'est réellement une réflexion qui, au prime abord, est déjà personnelle. Et puis, c'est toute la complexité face, je dirais, à un état qui est relativement autiste. C'est comment exprimer réellement ce que l'on peut observer au sein de la nature sans avoir trop de problèmes avec l'État. Quoi. On en est là, malheureusement. C'est un deal avec notre éditeur, savoir ce qui peut être dit ou pas dit.
On le connaît bien, votre éditeur, et c'est vrai que la guerre de l'ortie, enfin tout ça, on s'en souvient bien de ces événements récents par rapport à l'État. En tous les cas, moi, feuilletant votre livre et l'ayant parcouru, c'est un livre qui est très pratique, il est bien documenté, il y a plusieurs entrées par les prédateurs d'un côté, puis par les plantes médicinales de l'autre, et vraiment, c'est un régal. Merci beaucoup, monsieur.
Merci.